Les rouages de la chance. Depuis que je suis jeune, je fantasme sur ce que je ferais si je gagnais au loto. Je viens d'une famille modeste où les sacrifices de mes parents ont fait que nous n'avons jamais manqué de rien, ma sœur et moi. Mais imaginez comment un coup de bol pourrait rendre ma vie incroyable était une activité récurrente quand j'étais petit garçon. Mes trois jeux mentaux préférés étaient, par ordre de réalisme quant à leur consécration, qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto? Quel super pouvoir je choisirais si je devais n'en avoir qu'un dans ma vie? Quels seraient mes trois vœux si je rencontrais un génie? Ne croyez pas que je prenais ces questions à la légère. Je réfléchissais à toutes les conséquences et je faisais des projections jusqu'à visualiser tout le reste de ma vie avec ces nouvelles données. Ce n'était pas qu'un jeu. Je me disais que si un jour l'un des trois venait par chance à se concrétiser, alors je serais prêt à prendre les bonnes décisions, puisque j'aurais sérieusement réfléchi à la question. Il me suffisait donc d'attendre que le destin frappe à ma porte. La chance, depuis mon enfance, m'a été inculquée comme une bonne nouvelle, une potentielle surprise qui peut me rendre heureux à tout instant. Je l'ai appris par les jeux de hasard, dans les films, dans les bandes dessinées où les super-héros obtenaient leur pouvoir du jour au lendemain, et dans les contes où un personnage secondaire amenait toujours une quête ou une solution. Mais la chance prit une autre saveur lors de ma rentrée des classes en 6e. Nous sommes au nord de La Rochelle, à Lagorre, au collège Jean Guiton. Ma mère m'accompagne pour cette rentrée des classes particulière. C'est un sentiment spécial pour un enfant qui quitte 5 ans dans un environnement où il faisait partie des plus vieux pour devenir un des plus jeunes de ce qui ressemble presque à une ville, le collège. Plusieurs bâtiments, des étages, une cour de récréation qui n'en finit pas, des entrées et des sorties dans tous les coins. J'ai le souvenir précis d'avoir comme seule angoisse celle de ne pas trouver mon chemin dans ce dédale de portes. Nous nous approchons d'un regroupement, l'appel va commencer et je vais savoir dans quelle classe je vais être et où je vais aller pour la journée. Ma mère me tient la main et c'est très bien ainsi. Je n'ai jamais eu de période dans l'enfance ou dans l'adolescence où mes parents me faisaient honte. J'aime ma mère et j'étais bien content qu'elle soit là le premier jour. C'est pourtant le moment de la quitter pour suivre ce qui va devenir ma classe et monter au premier étage du bâtiment le plus proche. Je suis soulagé car le trajet est très simple à retenir pour pouvoir repartir quelques heures plus tard sans me perdre. Je m'assieds dans une salle dédiée à l'anglais et notre professeur principal se présente. Elle nous explique nos responsabilités, que nous allons avoir un professeur par matière, que nous devrons nous rendre nous-mêmes dans les différentes classes, que nous devrons noter les devoirs et nous organiser de manière autonome. Je me sens mal. Très mal. Je n'aime pas le changement et tout fonctionnait bien pour moi avant. Pourquoi changer? Quel intérêt? Mais je n'ai pas mon mot à dire et je n'ai pas envie de me faire remarquer en partageant ce genre d'état d'âme. Afin que mes camarades et moi nous nous rencontrions plus facilement, notre professeur organise un tour de table où chacun doit se présenter brièvement, dire son nom, son âge, l'endroit où il habite et le métier qu'il aimerait faire plus tard. Vient enfin mon tour que j'aborde avec le sourire. Parler en public ne m'a jamais causé de véritables problèmes tant que je maîtrise mon sujet. Alors parler de moi n'est pas le plus compliqué. Je me lève et dis. Je m'appelle Fabien Licard, j'ai 10 ans car mon anniversaire n'est pas encore passé, j'habite à Marcilly et plus tard, j'aimerais être informaticien. Et ma professeure principale me répond alors « C'est original, j'espère que tu auras la chance de pouvoir le faire. » Le côté « original » ne vous saute pas aux yeux, mais l'ordinateur personnel est une denrée rare en 1993. Les modèles existants tournent en majorité sous Windows 3.1, dont les utilisateurs vantent les mérites du programme Paint. Autre époque, autre échelle d'émerveillement. Je me rassieds sur mon siège et je reste un peu sonné. La phrase que ma professeure a formulée est rentrée dans mon oreille et a lancé la phase associative et comparative de mon cerveau. C'est le fonctionnement naturel de la réflexion humaine. Toutes les données sont comparées puis associées à d'autres déjà présentes en nous. Mais à ce moment-là, un bug a véritablement eu lieu dans mon esprit. Pourquoi devrais-je attendre de la chance pour exercer le métier que j'aimerais faire? Pour gagner au loto, rencontrer un génie ou obtenir un super pouvoir, je veux bien. Mais pour travailler dans le domaine que je souhaite. Ça n'avait pas de sens logique et cette pensée commença à tourner en boucle dans ma tête de petit garçon un peu trop obsessionnel. Je n'étais pas du tout d'accord et je refusais d'admettre que la chance, le destin ou le hasard aient quoi que ce soit à voir avec le domaine dans lequel je travaillerai. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en réfutant cette phrase anodine, j'étais en train de provoquer l'acceptation de quelque chose de beaucoup plus fort, plus réel et plus vertigineux. Je suis responsable de tout ce qui fait ma vie. Mais comme vous l'avez compris, mon cerveau a cette fâcheuse tendance à ne pas s'arrêter. Et en rentrant chez moi par le bus, au lieu de réfléchir à cette première journée dans un environnement complètement nouveau, je réfléchissais aux conséquences de cette découverte. J'attendais depuis longtemps de pouvoir m'acheter un jour un ordinateur, économisant chaque franc que je recevais ou que je gagnais, sachant que mes parents n'avaient pas les moyens de faire un achat aussi important. Les ordinateurs de l'époque coûtaient l'équivalent de 2 mois de salaire pour des configurations standards. J'étais attiré par l'informatique sans vraiment savoir faire fonctionner un ordinateur ou un logiciel. Mais si j'étais responsable de tout ce qui fait ma vie, alors j'étais aussi responsable de ne pas savoir me servir d'un ordinateur. Le fait de ne pas en avoir et de ne pas pouvoir en acheter devenait une simple excuse si la responsabilité me revenait, si la chance ou la malchance était enlevée de l'équation. Je me suis donc précipité à la bibliothèque de mon village pour prendre quelques manuels sur l'informatique et j'ai demandé à ma mère de m'abonner à un mensuel. Ce mensuel, Windows Magazine, était en plus livré avec 2 disquettes remplies de programmes que je ne pouvais donc pas utiliser. Elle accepta et cet abonnement devint l'un de mes cadeaux d'anniversaire pendant quelques années. Au bout d'un an à potasser avec curiosité les livres que j'empruntais et les magazines que je recevais, j'avais des connaissances plus complexes sur les ordinateurs que la plupart de ceux qui en possédaient un. Et c'est ainsi que l'année d'après, je commençais à donner des cours d'informatique à domicile dans mon village, y compris à l'adjoint au maire. Imaginez-vous bien que la première fois que j'ai touché un ordinateur, ce fut pour expliquer à quelqu'un comment régler un petit problème et lui donner un cours d'une heure. Ces cours à domicile ont duré 1 an et je mettais tous les pourboires que l'on me donnait dans une cagnotte. À mon entrée en 4e, 2 ans après avoir entendu ma professeure principale me parler de chance, mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient rajouter l'argent qui me manquait pour acheter mon propre ordinateur. Et ce n'est pas de la chance. Je pense que les 2 années qui ont précédé ont démontré à mes parents l'intérêt, la connaissance et la passion que je portais au domaine de l'informatique et à ses possibilités. Pendant tout ce temps, j'ai mûri ce qui est devenu mon super pouvoir. Je suis responsable de tout ce qui fait ma vie. Cette phrase élimine le concept de chance, mais elle pourfend aussi celui de malchance. C'est la partie la plus dure à admettre, et elle demande justement au mental de s'étirer pour s'assouplir encore plus. Si je suis responsable de mes bonheurs, je deviens aussi nécessairement responsable de mes malheurs. Mais heureux et malheureux ne sont que des adjectifs que l'on colle à des choses, des événements, des actions, etc. Ce sont aussi des étiquettes que l'on colle sur la réalité et nous allons ensuite percevoir cette réalité en fonction de cette étiquette. Dans d'autres cas, nous ne collons pas l'étiquette nous-mêmes et c'est une personne, un groupe de personnes ou la société qui nous explique que ceci ou cela doit être considéré comme heureux ou comme malheureux, comme chanceux ou malchanceux. C'est donc au collège, grâce à cette phrase commune lancée par ma professeure principale, que j'ai commencé à avoir une humeur plus neutre, à devenir plus autonome et à être proactif. Impossible de faire marche arrière. Zoom. Plus que de comprendre que vous êtes responsable de tout ce qui fait votre vie, plus que de l'admettre, vous devez atteindre le stade où vous l'acceptez. Votre mental va d'abord essayer de vous en empêcher, de tourner cette idée en ridicule, voire de vous faire oublier cette évidence. Vous devez prendre les rênes et les tenir fermement. Cette idée de responsabilité peut faire peur car lorsque vous verrez les étiquettes malheur, malchance ou encore injustice autour de vous, un sentiment de colère ou de culpabilité pourra vous envahir. Mais vous devez refuser ces étiquettes, car savoir que l'on est responsable de toute sa vie, c'est aussi accepter qu'elle n'existe plus. Tout doit redevenir neutre autour de vous, au moins dans un premier temps. N'ayez pas peur de ce super pouvoir, c'est l'une des bases de votre réussite autant que de votre bonheur, et nous allons voir dans ce livre audio comment vous en servir. Les émotions envoient de puissants signaux. La sensation de bonheur, ou plus simplement de sérénité, et la position mentale et émotionnelle dans laquelle nous sommes faits pour vivre. Toutes les autres positions telles que l'angoisse, la colère, la peur, la tristesse, la mélancolie, la culpabilité, etc., ne sont que des informations et des signaux que notre inconscient nous envoie afin que nous comprenions une situation selon notre grille de lecture. Cette grille de lecture qui s'est auto-formée dans notre cerveau. Tout d'abord, vous avez commencé à le comprendre, cette grille de lecture est complètement partiale et bourrée d'erreurs. Il ne faut pas subir ces émotions comme des fatalités, mais bien comme une information dont vous pouvez tenir compte. Ou pas. Devez-vous vivre les émotions négatives ? La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Sénèque. Selon l'essayiste Anthony Robbins, nous subirions majoritairement 14 émotions négatives. La peur, la colère, la culpabilité, la déception, la douleur, la honte, la solitude, l'angoisse, la frustration, le mépris, la rancune, l'ingratitude, la tristesse et la jalousie. Devons-nous pour autant les vivre ? Cette question se pose vraiment. À chaque fois que je lis un article de magazine sur la gestion des émotions négatives, on m'explique qu'il faut les refuser, les laisser passer, les faire disparaître. C'est très joli sur le papier, mais si vous aviez cette capacité spontanée, vous ne seriez pas en train d'écouter ce livre et je n'aurais pas mis tant d'années à développer toute cette méthode. La réalité est que l'on est imprégné par ces différentes émotions, comme une éponge qui se gorgerait d'une eau trouble. Nous sommes faits pour ressentir ces émotions par une chimie tout aussi précise que celle du plaisir que je vous expliquais au début de cette partie. Alors comment lutter ? Et devons-nous le faire ? Revenons quelques secondes sur le concept du présent. Lorsque vous êtes mentalement dans le présent, vous êtes toujours conscient de ce qui vous arrive. La conscience des émotions est la première marche pour vous dissocier d'elle et la traiter comme elle est, une information. C'est mathématique. C'est logique, et pourtant, quand vous le ferez pour la première fois, cela va vous sembler magique. Comme si l'on vous décollait un poids un peu lourd posé sur votre poitrine. Une fois conscient de l'émotion que vous sentez arriver, ou qui est déjà là, vous prenez connaissance consciemment de cette information. Par exemple, « Cette situation me rend très en colère. » Et c'est maintenant que les règles changent. Voulez-vous faire l'expérience de cette émotion ? C'est une vraie question. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de la faire partir dès que vous la ressentez. Vous pouvez décider de manière rationnelle ou irrationnelle d'ailleurs que vous souhaitez faire l'expérience consciente de cette émotion. Vous avez le droit d'être triste si vous vous l'êtes autorisé pleinement. Je ne parle pas de pleurer, qui est un signal de grande tristesse instantanée. Je parle par exemple d'être mélancolique pendant plusieurs heures d'affilée. C'est votre choix. Il vous appartient. Lorsque la chimie de votre cerveau vous fait parvenir une émotion, que vous la détectez consciemment en étant dans le présent, que vous l'analysez en vous décentrant, alors vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ni moi, ni personne n'a le droit de vous dire quoi en faire, seulement de vous inciter à l'observer d'abord plutôt que de la subir. Car laisser une émotion vous envahir sans faire cette si simple manœuvre mentale revient à laisser quelqu'un prendre les commandes de votre mental pour y mettre les filtres de la réalité qu'il souhaite. Voici une clé. Vous avez le droit de vivre des émotions négatives, consciemment, pour parfois simplement en faire l'expérience et d'autres fois pour vous rappeler à quel point l'état de neutralité est agréable. Je peux tout à fait convenir que certaines personnes ont parfois besoin de ressentir quelques frissons pour mieux apprécier ensuite la chaleur. Car en réalité, l'arrivée d'une émotion n'est pas contrôlable. Elle s'impose à vous, et c'est seulement une fois qu'elle est présente que vous pouvez agir. Vous ne devez pas culpabiliser de ce que vous ressentez, mais au contraire vous ouvrir à accepter qu'une émotion vous envahisse. Ensuite, vous pourrez l'atténuer et la laisser passer. À noter qu'il y a un cas particulier où vous pouvez prévenir l'arrivée de ces émotions, celui où vous n'avez pas de levier. Vos leviers sont vos forces. Pourquoi, fondamentalement, vous ne devez pas perdre votre temps et votre énergie sur ce que vous croyez être un échec ou une réussite ? Parce que cela fait partie du passé. Vous avez envie de me répondre, mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Le passé ne vous appartient plus. Vous ne pouvez pas le changer. Vous n'avez aucune marge de manœuvre pour changer ce qui a été. Vous ne pouvez qu'observer. Au mieux, tirer des conclusions, juger a posteriori, mais il n'existe pas d'outil vous permettant d'agir dans le passé. Cela signifie donc que vous n'avez aucun levier pour agir. Voilà pourquoi je vous demande de regarder en direction du prochain essai, de la prochaine émotion. Car c'est le seul endroit où vous pouvez actionner des leviers qui auront un impact. J'appelle cela les leviers car, en adoptant cette philosophie, vous utiliserez mon jargon. Il n'est pas choisi pour faire joli, ni par hasard. Comme nos pensées marchent par association, les mots font résonner des sens et des concepts dans nos différentes strates cérébrales. Le terme levier nécessite une action mécanique et une telle action demande de la force et de l'énergie, ce qui veut dire par extension que cette action provoque de la fatigue. Les émotions négatives carburent à l'énergie mentale et physique. Les laisser vivre fait descendre votre jauge d'énergie au point que vous ne pouvez plus faire autre chose que de vivre cette émotion. Mais si en plus, cette énergie est dépensée à un endroit où vous n'avez pas de levier à actionner, alors vous vous épuiserez sans aucun résultat possible. Cela est valable pour le passé, mais aussi pour le présent. N'usez pas votre énergie à perte sur des choses qui ne dépendent pas directement de vous. Si demain, je dois faire un spectacle en extérieur et que la pluie se met à tomber, je vous le dis franchement, je ne le vivrai pas mal. Je n'ai aucun pouvoir sur la météo, aucun levier à actionner. Les gens qui me sont proches savent à quel point je suis d'humeur égale dans ce genre de situation. Je vais voir au contraire comment reporter ce spectacle dans d'autres conditions, à une date ultérieure, car ici j'ai des leviers potentiels. Si demain je perds ma montre, à laquelle je tiens, sans avoir aucune piste pour la retrouver, alors je resterai aussi d'humeur égale. Je vais l'accepter sans problème. Je vais me tourner vers le futur pour voir quand et comment je peux la remplacer si nécessaire. Un dernier exemple. Je terminais l'écriture de ce livre durant la période de confinement de mars 2020 liée au Covid-19. Pour faire court, la moitié de ma tournée était en stand-by. Toutes mes conférences également. Les opérations avec des marques étaient avortées. Les publicitaires avaient retiré leur budget de YouTube et de Facebook. Les ventes de mes livres et de mon magazine semblaient congelées. Et pourtant, cela ne m'a pas impacté émotionnellement malgré la perte de 33% de mon chiffre d'affaires annuel, pour le moment. Je suis resté d'humeur neutre, parce que je n'ai pas le temps et l'énergie pour cela. Actuellement, j'ai accepté ces nouvelles données, et comme le vieil homme du conte, je ne sais pas si c'est une mauvaise ou une bonne chose. Ce sont juste des réalités factuelles sur lesquelles je n'ai aucun levier. Nous avons, avec Fanny qui travaille avec moi, reporté toutes les dates de tournée. Nous avons, avec Loïc, mon réalisateur, tourné assez de contenu pour continuer les vidéos pendant 2 mois. Nous avons activé tous les leviers sur lesquels nous avions les mains posées. Les zones sans levier ne m'intéressent pas, je n'y porte aucune attention, aucune émotion. Voici une clé. Votre énergie, qu'elle soit mentale ou physique, est ce qu'il y a de plus précieux en vous. Réguler votre humeur, vivre les émotions qui sont seulement nécessaires, vous préservera de la perdre inutilement. La météo ou la pandémie sont des réalités objectives qui nous obligent à plus de souplesse, de changement. Se sentir concerné et ne dépenser de l'énergie qu'aux endroits où vous avez des leviers vous permettra de faire de plus belles choses que si vous aviez laissé la peur ou la frustration aux commandes.